Le conte des conteurs, Nasser Khémir, suite. Le derviche se tourna alors vers mon grand-père et lui a dit « Ton fils est captif d'une adolescente au fond d'une cour où s'élance un figuier comme une fontaine. » Avant de quitter la maison, il s'est arrêté sur le seuil et il a murmuré dans un souffle « Bientôt la mort déguisée en mendiant viendra le chercher. Pour l'empêcher de rentrer, il suffit de partager avec elle ton dîner. » Le deuxième jour, à la tombée de la nuit, un mendiant frappa à la porte. Sans un mot, mon grand-père est sorti partager son dîner avec lui. Ses rendez-vous répétés avec la mort ont fini par le blanchir. Pendant ce temps, ma grand-mère cherchait. Elle enfilait les cours comme des perles et un jour elle finit par trouver le figuier, la cour et l'adolescente. Elle rapporta la nouvelle à la maison et l'on décida de la demander en mariage pour Hassan. Le père de l'adolescente était le fils d'un grand joaillier qui, à sa mort, lui avait légué une immense fortune. Mais le temps, les mauvais compagnons et l'oisiveté avaient tout englouti. Resté seul et sans bien, il se réfugia dans l'oubli du narguilé. Mon grand-père alla le voir et le trouva dans son fumoir au bout de son jardin. Il lui raconta l'histoire de Hassan du début jusqu'à la fin. Perdu dans son nuage de fumée, l'homme ne semblait même pas l'entendre. À la fin de la journée, il se retourna et dit « Ma fille est encore jeune. » J'ai décidé de la donner en mariage à celui qui me rapporterait l'histoire de l'homme qui regretta là où le regret ne sert plus à rien. Sur le chemin du retour, mon grand-père ne savait s'il fallait se réjouir ou s'attrister. Il était troublé par ce fumeur qui donnait sa fille pour une histoire. « Quelle histoire ?» demanda ma grand-mère. « L'histoire de l'homme qui... » Il n'avait pas terminé que la mort frappa à la porte. Il prit son dîner et alla le partager sur le seuil. Le soir même, grand-mère invita les voisines et ensemble, elles firent le tour de tous les contes. Elles les égrenèrent un à un toute la nuit, sans trouver l'ombre de l'homme qui... Pendant un mois, les femmes remuèrent la ville, puis ciel et terre. Elle prenait à cœur Hassan et son malheur, mais personne ne connaissait l'histoire. Et le père de l'adolescente resta de marbre devant le désir de toutes les femmes de la ville. Le refus raffermit leur envie de sauver Hassan. Elles veillèrent toute la nuit, et dans le jour qui pointait, elles allèrent consulter la plus vieille d'entre elles, car on dit que dans chaque vieille femme, il y a 99 femmes réunies. « Je me souviens, dit-elle, d'une femme nommée Doniazade qui avait entendu tant et tant d'histoires qu'elle connaîtrait sûrement celle de l'homme qui regretta là où le regret ne sert plus à rien. Je vous conseille d'aller la trouver. Mais je ne suis plus sûre. Je suis si vieille. Je crains que cette femme ne soit qu'un nom dans une histoire. » Alors, les femmes se réunirent encore trois nuits et décidèrent de partir. Toutes voulaient être les messagères de Hassan. « Mais, dit ma grand-mère, il fallait bien que certaines restent pour la bonne marche de la cité. » Alors, on laissa le sort en désigner 40. Quant aux hommes, ils acceptèrent de mauvaise grâce ce départ. Et pour leur tranquillité, ils exigèrent qu'elles soient accompagnées au moins d'un homme pour les garder. Mais tous voulaient être cet homme. Ils se disputèrent longtemps, pour finir par choisir un enfant. Et cet enfant, ce fut moi. La 14e nuit de la lune de Muharram, les femmes mirent leurs plus beaux habits et prirent leurs voiles de fête. Elles partirent avant l'arrivée du mendiant. Elles ne cessèrent de voyager de ville en ville. et dans chaque ville, elle se partageait les quartiers et enfilait les maisons comme des perles à la recherche de l'homme qui. Le soir, elle se rassemblait et énumérait chacune les histoires de la journée, mais jamais nulle trace de l'homme qui. Alors elle finissait toujours par raconter la même histoire à tour de rôle, car elle la connaissait toute. Les autres savouraient, vigilantes. L'une commençait ainsi. On raconte que dans les temps anciens, deux frères s'en étaient allés voir l'état de leur destinée sur le chemin d'Allah. Dans l'auditoire, une femme corrigea. Deux princes. Et celle qui racontait reprit. On raconte que dans les temps anciens, deux princes s'en étaient allés voir l'état de leur destinée sur le chemin d'Allah. Ils voyagèrent jour et nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arbre au milieu d'une prairie, près d'une mer salée. Ils s'arrêtèrent pour se reposer. Une heure ne s'était pas écoulée que la mer se mit à s'agiter et à l'horizon, l'écume tourbillonna et monta vers le soleil en dessinant des arabesques. Lorsqu'elle atteignit l'azur du ciel, elle se transforma en un magnifique ifrit, la tête dans les nuages et les pieds dans les vagues. Le génie portait sur la tête un coffre d'ébène. Effrayés, les deux princes montèrent au plus haut de l'arbre pour observer. Le génie sortit alors de l'eau et posa le coffre au pied de l'arbre. Il ouvrit sept serrures, l'une après l'autre. Alors sortit une belle adolescente qui se posa délicatement sur l'herbe. Le génie se pencha sur elle. « Oh, ma maîtresse, je suis là. J'ai écumé des mers, traversé des espaces et des terres. Je voudrais m'assoupir, ne serait-ce qu'un instant, sur tes genoux. » Le génie posa sa tête et s'endormit en paix. L'adolescente regarda à droite, à gauche, en haut, et elle aperçut les deux princes penchés sur l'arbre. Alors, elle souleva la tête de l'Efrit, la reposa sur un galet froid et leur fit signe de descendre. Ils désignèrent le génie avec terreur. L'adolescente leur dit d'un geste « Oh, vous deux, descendez au plus vite ou je réveille les frites et il vous réduira en poussière. » Ils obéirent à l'adolescente et elle les entraîna derrière une dune. Là, elle les soumit à son plaisir et ils firent d'elle tous deux ce qu'elle avait ordonné. Ils allaient partir quand elle les rappela. « Oh, vous deux, avant de partir, donnez-moi vos bagues. » Et de son sein, elle sortit un collier fait de 570 bagues auxquelles elle ajouta celle des deux princes. Avant de reprendre la tête du génie sur ses genoux, elle leur dit « Sachez que cet ifrit m'enleva la nuit même de mes noces, qu'il m'enferma dans ce coffre fermé de sept serrures et qu'il le cacha tout au fond de l'océan. Mais sachez-le bien, lorsqu'une femme d'entre nous désire quelque chose, rien ne saurait l'arrêter. J'ai compris bien plus tard pourquoi les femmes aimaient tant cette histoire. »